Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, le chef des volontaires pour la défense de la patrie de l'Oropéni a été tué mercredi 15 mars dernier lors d'une attaque des groupes armés terroristes dans le village de Karbara, dans la commune de l'Oropéni. Opération Labingol 3, le ministre de la Défense s'inquiète de la situation à Kongosi et à Bourzanga. Justement, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Mali dit être disposé à partager son expérience et ses équipements militaires avec le Burkina. À l'international, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken achève sa visite de 2 jours au Niger. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le chef des volontaires pour la défense de la patrie, VDP de l'Oropéni, a été tué mercredi 15 mars dernier lors d'une attaque des groupes armés terroristes dans le village de Karbara, dans la commune de l'Oropéni. Les faits ont été rapportés à Omega Media par des sources locales qui précisent que des blessés et de nombreux dégâts matériels ont été également enregistrés. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Plus de précisions avec Khaled Ouedraogo.
Selon les sources d'Omega Media, l'attaque s'est produite mardi soir dans la commune de Karbara. Les VDP de l'Oropéni s'y étaient rendus pour des opérations de sécurisation. Et c'est aux environs de 3h du matin dans la nuit du mardi à mercredi qu'ils seront surpris par une violente attaque. Certains VDP dormaient encore en attendant le petit matin pour continuer la patrouille, précise notre témoin. Ce dernier explique qu'il y avait 2 groupes de VDP et c'est celui dans lequel se trouvait le chef des volontaires qui a été attaqué. Plusieurs VDP ont réussi à s'extirper du piège des hommes armés. Cependant, l'attaque a causé d'importants dégâts matériels, toujours selon le récit des témoins. Ils ont brûlé toutes nos motos, dont le nombre est estimé à 30, confie la source de Omega Media. Le corps du chef VDP n'a pas encore été récupéré et il est difficile pour l'heure de dresser un bilan selon d'autres sources qui précisent que des portées disparues ont été retrouvées jeudi dans la matinée et 3 blessés évacués.
Justement, une lutte efficace contre le terrorisme passe par la motivation des combattants sur le terrain. C'est accompagné du ministre délégué à la sécurité et d'une délégation d'autorités militaires que le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, est allé à Kongosi et à Bourzanga hier pour encourager les unités FDS et VDP engagées dans l'opération et s'enquérir donc de la situation. Plus de détails avec Jean-Paul Ouedraogo.
Ce déplacement, selon le service de communication du ministère, a permis aux visiteurs d'être briefés sur le point de la situation de l'opération militaire Labingol 3 et d'échanger directement avec les combattants engagés. Le ministre colonel-major Kassoum Koulibaly a indiqué son service de communication témoigner sa satisfaction pour la détermination des hommes et les résultats déjà engrangés. Au nom du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il les a encouragés à poursuivre cet élan de pacification de la zone et a promis de prendre en compte les suggestions et les doléances exprimées pour une meilleure conduite de l'opération, a ajouté la direction de la communication et des relations presse du ministère. Labingol, nettoyage en langue foufoudé, est une opération menée par les FDS et VDP sur le théâtre d'opération du Nord. Sa 3e phase, Labingol 3, débutée dans la première semaine de mars, a pour mission de contrôler la zone entre Kongosi et Djibo et rétablir la fluidité du trafic entre ces 2 villes. Cette opération a permis le ravitaillement de Bourzanga et des localités environnantes en produits de première nécessité. Elle ambitionne également permettre la reprise des travaux du bitumage de la route nationale 22 qui a été interrompue.
Dans un contexte sécuritaire difficile au Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta a dépêché hier son ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, à Ouagadougou. Ce dernier était, selon le communiqué de la présidence du Faso, porteur d'un message du président de la transition malienne à son homologue burkinabé. Le Mali dit être disposé à partager son expérience avec le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Nous écoutons donc le colonel Camara, dont les propos ont été rapportés par la présidence du Faso.
Nous sommes porteurs d'un message de son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, à son frère et ami, son excellence Ibrahim Traoré, président du FASO. Nous avons passé en revue toutes les questions qui intéressent nos deux États. La préoccupation actuelle est la situation sécuritaire. Sur ce plan, nous avons reçu des instructions de nos chefs d'État de mutualiser nos efforts. Et la situation que connaît le Burkina aujourd'hui, il y a de cela quelques mois, le Mali est passé par la même situation. Et aujourd'hui, nous sommes prêts. Le Mali est prêt à partager le peu d'expérience ou le peu de moyens que nous avons acquis récemment. Donc, nous allons aussi en retour transmettre les messages du président Ibrahim Traoré à son frère, le président Assimi Goïta. Nous savons que la situation actuelle est difficile pour nos États, mais quand nous choisissons, c'est-à-dire la voie de l'indépendance, il y a prix à payer. Mais nous sommes confiants. Nous savons qu'ensemble, nous allons réussir.
Le Conseil des ministres tenu hier à Ouagadougou a adopté un projet de décret pour réglementer les baux administratifs. Il s'agit simplement du loyer que l'État paye pour les structures publiques. L'objectif est de contenir et même donc de réduire le coût de ces charges. Les explications du ministre de l'Économie, Aboubacar Nakanabo.
Comme vous le savez, le parc immobilier de l'État n'est pas suffisant pour prendre en charge le personnel de l'administration. Donc l'État est obligé de faire appel à des privés pour louer des bâtiments et la location de ces bâtiments coûte trop cher à l'État. Il ressort que de 2017 à 2022, nous sommes passés de 5,4 milliards à près de 9 milliards. Donc nous sommes à près de 9 milliards, ce qui est quand même très élevé pour l'État. Donc voilà la réglementation pour faire en sorte de rationaliser et instaurer plus de transparence. Et pour cela, le décret a prévu qu'il y ait un renforcement donc de la Commission nationale qui est chargée des opérations immobilières et également une limitation de la durée des baux de l'État, donc des baux administratifs, et surtout que la clause de révision triennale qui est prévue dans le contrat soit levée, parce que cette clause amène systématiquement à une augmentation du loyer chaque 3 ans, ce qui gonfle davantage donc les loyers.
Une solution à court terme en attendant que l'État se dote d'assez de bâtiments pour héberger tous ses agents. Selon Aboubacar Nakanabo, c'est un projet également en cours.
L'État est en train de travailler sur un projet immobilier qui va permettre donc de doter donc l'administration publique de bâtiments administratifs de grande envergure pour pouvoir prendre en charge l'essentiel donc des services administratifs. Ce projet est en cours. Et cela sera donc la solution définitive, puisque les solutions que nous adoptons actuellement, c'est juste pour contenir donc la flambée des loyers. Mais à terme, l'État devrait faire recours moins au loyer dans la mesure où l'État disposera donc de ses propres bâtiments et nous travaillons pour cela.
Cette autre actualité, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Balasakande, rejette les résultats de l'audit conduit donc par l'ASELC qui n'aurait pas respecté toutes les procédures en la matière. Sa position a été donnée par ses avocats lors d'une conférence de presse tenue hier à Ouagadougou. Ce rapport donc rendu public la semaine dernière révélait des irrégularités donc à hauteur de 13 milliards de francs CFA, invitant leurs clients au remboursement de certaines dépenses. Le compte rendu est de Sylvie Komta et Abdulaziz Zoulabou.
Le principe de contradiction non moins important dans l'exécution de cet audit a été foulé au pied par l'ASELC selon les avocats de Alassane Balasakande. En d'autres termes, les intéressés n'ont pas été entendus sur un certain nombre de questions pour éventuellement y apporter des réponses aux justifications. Le contenu de ce rapport n'est pas lui non plus exempt de reproche. L'ASELC a révélé des irrégularités estimées à 13 milliards de francs CFA réparties comme insincérité des comptes, irrégularités dans la gestion de la comptabilité et les prêts et subventions accordés au groupe parlementaire. Pour le premier point, à savoir l'insincérité des comptes, 12 milliards de francs CFA auraient été décaissés pour des projets qui n'ont jamais vu le jour. À cette question, Maître Dieudonné Willy réplique.
Ainsi, Soubala Alassane Balassac National a décidé que l'Assemblée va provisionner chaque année dans son budget 4 milliards de francs pour les travaux de construction de son siège. Ainsi donc, ces trois exercices 2019, 2020 et 2021, une provision de 12 milliards de francs a été constitué dans le cadre de la réalisation de ce projet.
D'autres types de dépenses, comme les subventions accordées à des structures publiques de l'État par l'hémicycle ou encore le programme des volontaires de l'Assemblée nationale, sont jugées inopportunes par l'ASEELC. Maître Antoinette Ouedraogo.
À partir du moment où la dépense a été faite, dans le cadre du fonctionnement normal de l'institution qu'est l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment l'ASEE peut venir dire que cette dépense-là, elle est inopportune, elle est injustifiée, elle est ceci, elle est... Pour ma part, en tout cas, je ne pense pas que la loi lui a donné cette possibilité de qualifier certaines dépenses d'inopportune ou d'injustifiée.
Ses avocats voient en ses audits exclusivement dédiés à la période du magistère de leur client une manœuvre pour liquider politiquement Alassane Bala Sakandi.
Une nouvelle présidente à la tête du Conseil de l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina. Jocelyne Sonia Kabore et sa nouvelle équipe ont été installées hier à Ouagadougou. C'est une cérémonie de passation de charges placée sous le thème « L'ingénieur en génie civil face aux défis sécuritaires, socio-économiques et environnementaux ». Durant les 3 années à venir, ils auront pour objectif de donner les grandes orientations à l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina. Une cérémonie au cours de laquelle ces acteurs ont interpellé les ingénieurs en génie civil sur le respect de l'éthique et de la déontologie de leur profession, vu les récents incidents constatés dans leur domaine. Compte rendu signé Valérie Guéret et Nadège Yabri.
Jocelyne Sonia Kabore est désormais la nouvelle présidente du Conseil de l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina. Élue pour un mandat de 3 ans, elle remplace à ce poste Maxime Somda. Le bureau est composé de 8 membres, dont 2 femmes. Ils sont tous engagés aux côtés de la présidente pour accomplir les missions qui leur ont été assignées par leurs collègues. Il s'agira de corriger certaines imperfections au regard des incidents survenus sur certains chantiers, dont le site de l'Université de Kudugu et celui de l'aéroport de Donsin. Jocelyne Sonia Kabore, présidente entrante.
Nous sommes conscients des incidents constatés ces 3 dernières années, mais l'ingénieur en génie civil ou l'ingénieur conseil, qu'on appelle souvent bureau d'études ou bureau de contrôle, ne sauraient être des acteurs incontournables. C'est-à-dire qu'on doit travailler avec nous. Et nous savons que notre pleine participation est importante dans ce développement des infrastructures au niveau du Burkina Faso. Oui, il y a des erreurs qui sont commises, mais nous apprenons des erreurs pour mieux faire.
Ce fut l'occasion pour le représentant du ministre en charge des infrastructures, Emmanuel Bembamba, d'exhorter ces nouveaux acteurs à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions.
C'est les demander à se mettre au sérieux. Parce que le corps, il y a une déontologie, il y a des règles à respecter. C'est de se mettre au sérieux dans le cadre de contrôle et de la surveillance des travaux afin de fournir des infrastructures. Pour l'équipe nouvellement installée, je les engage à mener des réflexions et des réformes afin que des désastres qui se sont produits ne se répètent plus.
Président sortant, Maxime Somda a été président d'honneur de l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina.
L'usine de production des aliments pour bétail Rooms Nema a ouvert ses portes ce jeudi 16 mars à Ouagadougou. Il s'agit pour la ferme industrielle du Burkina Sompagnini des origines Firpso de répondre aux besoins incessants des éleveurs en qualité et en quantité d'aliments. C'est aussi une usine avec une chaîne de production automatique et moderne et d'une capacité de production de 2 tonnes par heure composée d'un broyeur, un mélangeur, un convoyeur, une granuleuse, un séchoir et une conditionneuse. Le compte-rendu avec Jean-Baptiste Ramdé et Moumouni Tamboura.
Rumus Nema est la marque des nouveaux produits lancés par la ferme industrielle Fipso. À travers cette chaîne de production moderne, la société Fipso veut relever le défi de nourrir les ruminants par les aliments d'embouche et augmenter ainsi la production de lait au Burkina Faso et dans la sous-région. La jeune promotrice de Rumus Nema entend répondre aux besoins des éleveurs à travers les 3 produits déjà disponibles. Anissa Tindrebego, promotrice de Rumus Nema.
Donc, l'idée de créer est de permettre à certains producteurs d'avoir accès à des produits de qualité pour leur animal. Pour le moment, on a 3 aliments. On a les aliments pour l'embouche, pour les bœufs et les moutons. On a l'aliment pour les vaches, les animaux laitiers. On a les aliments pour les chevaux aussi. La capacité de production pour l'usine actuellement, c'est de 2 tonnes par heure.
Le représentant du ministre délégué en charge des ressources animales et halieutiques, Issa Sawadougoum, encourage et invite la ferme industrielle du Burkina, Sompagnini, à plus d'engagement dans la production des aliments à bétail.
Pour produire intensif, il faut forcément des aliments concentrés. Et l'usine est là pour faire croire que ça fait une solution en plus. Il y a beaucoup d'autres usines. Mais le besoin est tel que tout ce qui se produit actuellement en termes d'aliments, ce n'est pas suffisant. Donc on souhaite réellement que cette usine prenne une bonne place et qu'elle grandisse davantage parce que c'est ça la solution à nos problèmes d'alimentation du bétail en fait.
À travers cette initiative, la promotrice Anissa Tindrebiogo, étudiante en agronomie, veut inviter la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle entend par Rumus Nema devenir dans les années à venir une concurrente dans la sous-région.
Chronique du carême du 17 mars 2023, comment vivre le carême en famille? C'est le thème abordé par Judith Traoré dans la chronique du carême de ce vendredi 17 mars. Le temps de carême est un temps important dans l'année liturgique. C'est l'occasion pour les catholiques de préparer leurs enfants à Pâques en leur expliquant ce que ce temps, puis la semaine sainte et Pâques célèbre. Hélas, avec des journées bien remplies, il n'est pas toujours évident de le vivre en famille. Quelques pistes dans ce quatrième numéro de la chronique du carême avec Judith Traoré.
Pour des personnes qui vivent en famille, le temps du carême revêt un caractère particulier. Pour bien vivre ce temps en famille, premièrement, l'attention et le temps accordé à la famille sont importants. Mieux, chaque membre de la famille doit accorder du temps aux autres membres de la famille. L'abbé Silver Perwende Yamego, curé de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalguin.
L'attention l'un à l'autre. Le monsieur fait attention à son épouse qui fera attention à l'époux également et les enfants. Nous sommes dans un monde où l'on court beaucoup, où l'on a le temps pour ceux qui sont dehors, mais pas toujours le temps pour ceux qui nous sont proches.
Il ne faut pas oublier la prière en famille.
La prière en famille. Prier ensemble. Le soir peut-être, parce que le matin chacun va qu'à ses occupations, c'est difficile. Prier ensemble, partager la parole de Dieu ensemble. Par exemple, le vendredi qui est jour de jeûne, l'on pourrait, dans l'effort, se dire que l'on peut se retrouver autour de la parole de Dieu et partager la parole de Dieu. Et ça, en famille, c'est vraiment un grand atout qui aide la famille à se consolider.
Le partage à l'intérieur de la famille est aussi recommandé.
Partager le repas ensemble. Éteindre nos téléphones, éteindre nos écrans, la télé, y compris les jeux vidéo, pour s'asseoir ensemble à la claire lune, pour échanger ensemble comme au bon vieux temps. Parce que ce sont des outils qui nous individualisent. On peut entrer dans une famille et puis chacun est accroché à son téléphone. Le temps de carême pourra être un effort que chaque membre de la famille fournira pour être avec les autres. Être avec les autres, pas seulement de façon présentielle, physique, mais de façon globale.
Le temps du carême peut être également vécu dans la réconciliation en famille et avec les voisins.
Les mamans d'une même famille peuvent en venir à s'en vouloir. On ne se parle plus, soit monsieur et madame ou avec les enfants. L'un ou l'autre enfant peut être distant vis-à-vis des parents. Alors ce serait aussi le temps de la réconciliation. Avec le voisinage également, c'est également quelque chose parce que la famille s'élargit aussi avec ceux qui nous entourent.
En tant que famille, les économies issues des privations des vendredis de carême sont à utiliser pour soutenir des familles. Du reste, c'est le jeûne qui plaît à Dieu, nous disent les saintes écritures.
Actualité internationale, je vous l'annonçais en titre, fin de la visite de 48 heures au Niger du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec le président nigérien Mohamed Bazoum avant d'animer une conférence de presse conjointe avec son homologue Assoumi Massaoudou. Après un entretien avec son homologue nigérien, cap a été mis sur l'ambassade américaine. Une rencontre avec des jeunes repentis de Boko Haram, spécialement donc venus du lac Tchad, a permis au chef de la diplomatie américaine de s'imprégner du retour progressif de la paix dans la zone où plus de 500 combattants de Boko Haram ont déposé les armes. Au palais de la présidence, une séance de travail élargie aux délégations des deux pays et un tête-à-tête avec le président Mohamed Bazoum ont duré près de 3 heures, ce qui témoigne de la qualité et de la force des relations entre les États-Unis et le Niger, a souligné Assoumi Massaoudou, le ministre nigérien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse conjointe. C'est tout pour ce journal mis en onde par Edwige Tendrebego à la présentation. Je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.